Bonsoir. Dans une déclaration la semaine dernière, le chef de la délégation gouvernementale a fustigé l'attitude du facilitateur ougandais au pourparlers de Kampala. Selon François Mwamba, le facilitateur ougandais voudrait imposer pour la signature un document qui viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, manœuvre que le gouvernement congolais n'accepte pas, a-t-il ajouté. Quelle lecture faire de cette déclaration et que faut-il pour faire avancer les pourparlers de Kampala? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Nous recevons comme invité dans cette émission André Alain Atundu Lyongo, ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Il est président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Mathieu Kalili, professeur de sociologie à l'université de Kinshasa. Il est président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais FNTC, parti politique de l'opposition. Professeur Kalili, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Pour parler de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a même beaucoup de choses qui ne vont pas. C'est la déclaration de François Mwamba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba et chef de la délégation gouvernementale à ses pourparlers. François Mwamba, qui l'a dit à Radio Okapi la semaine dernière, a fustigé le comportement du facilitateur ougandais. Ce dernier voudrait imposer pour la signature un document qui viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, manœuvre que le gouvernement congolais n'accepte pas. Écoutez François Mwamba au micro d'Innocent Olinga.
Quelle n'a pas été notre déception de constater que les fameux 14 jours, lorsqu'on nous appelle à Kampala, ont été consacrés à du théâtre, à du cosmétique. La seule chose qui intéressait la médiation, ce n'était pas la fin de la guerre. Ce n'était pas que les gens déposent les armes. Ce n'était pas d'augmenter une pression, comme ça a été dit et écrit, sur les M23. C'était plutôt quel type de rapport il fallait faire à New York le 23, c'est-à-dire quelques jours après. Pour cela, on nous a mis dans une salle, on a fait des photos, on a fait des trucs. Et puis, finalement, on nous a donné, soi-disant, un ordre du jour comportant 10 points. Mais les 10 points, elles avaient d'où. On a bien vu que ce sont 10 points extraits du deuxième document, de la deuxième proposition de l'Ouganda que nous avions rejeté, puisque comportant des choses qui portaient atteinte à notre souveraineté, qui portaient atteinte à l'intégrité de notre territoire. Vous savez très bien que même si on doit négocier pendant 10 ans, personne ne nous fera signer des choses de cette nature-là. Je conclue simplement en disant, personne ne peut plus nous distraire, qu'il s'appelle président Museveni ou autre chose, personne.
Pendant que la liste d'au moins 78 commandants du M23 non éligibles à l'intégration dans les FRDC publiée par le gouvernement congolais bloque les négociations à Kampala, on apprend qu'une autre liste circulerait déjà dans la capitale ougandaise. Cette fois-ci, elle concerne des responsables politiques du M23 non éligibles à une quelconque intégration politique en RDC. Selon notre source sur place à Munyonyo en Ouganda, le président du M23, Bertrand Bisimwa, figurerait sur cette liste noire.
La liste ne fait pas de distinguo entre l'aile Sultani Makenga et l'aile Bosco Ntaganda. C'est ainsi qu'on retrouve sur cette liste des personnes comme Jean-Marie Runiga, président du Sud du M23, François Ruchogoza, ancien ministre provincial de la justice du Nord Kivu et ancien chef de la délégation du M23 à Kampala, et Mashagiro Nzei, député exclu de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Roger Lumbala, député national du Sud du Kasaï Oriental qui s'est dit invité du M23 à Kampala, figure aussi sur cette liste des personnes que le gouvernement ne voudrait pas voir réintégrer la sphère politique congolaise. Serait épargné de cette non-éligibilité René Abandi, actuel chef de la délégation du M23 à Kampala, Kambasu Ngeve, négociateur principal du M23, ou encore Sendugu Museveni, chargé de la politique intérieure du mouvement rebelle. Il faut dire que cette liste intervient au moment où la première qui concerne 78 commandants du M23 non éligibles à l'intégration dans les FRDC pose problème. Les facilitateurs ougandais l'auraient réduite à 43, une une réduction qui n'enchanterait pas la délégation gouvernementale.
Merci Nonson Linga. Monsieur l'ambassadeur André Alain Tundu Lyongo, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Vous êtes président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle. François Mwamba qui fustige l'attitude du facilitateur ougandais. Comment vous analysez cette déclaration que nous venons de suivre qui est empreinte d'exaspération?
Je crois que c'est une déclaration fondamentale et qu'il faut analyser parce qu'elle met en cause la bonne foi de l'une des parties, la bonne foi du facilitateur, et rappelle qu'il y a des lignes que nous ne pouvons franchir, notamment la souveraineté et l'intégrité de notre territoire, la vénalité de notre pays. Et enfin, il y a des intérêts fondamentaux à sauvegarder. On ne peut hypothéquer l'avenir en signant des accords qui ne remplissent pas les conditions pour être exécutés de bonne foi.
Allez-y, terminez votre idée, je vous en prie.
Oui,
voilà. Alors, à ce niveau-là, mais on a par exemple cette liste d'au moins 78 commandants non éligibles qui passe de 78. On parle maintenant de 40 et la facilitation aurait voulu qu'il y ait moins que ça. Comment vous expliquez tout ça? Cela n'était-il pas prévisible?
Vous savez, la première qualité de quelqu'un qui exerce le rôle de facilitateur, c'est d'être séquent, c'est-à-dire que chacun ou chacune des parties doit retrouver en la personne du médiateur ou de facilitateur des intérêts. Or, il s'avère que la République démocratique du Congo ne retrouve pas ses intérêts adéquatement défendus par le facilitateur. Et donc, ce cabrage tout à fait logique et légitime de la part de la délégation, tel que exprimé par le chef de délégation, François Mwamba.
Nous prenons pour vous, monsieur l'ambassadeur, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Amani Bensheke de Kinshasa. À mon avis, le dialogue de Kampala donne l'impression que le Congolais est moins intelligent, moins prudent et encore à la fois ami de la distraction. Tout ce que François Mwamba fustige aujourd'hui a été prédit par plusieurs analystes et médias indépendants. C'est inadmissible d'accepter un pays agresseur complice et cadre des négociations. Pareil comédie ne peut se jouer qu'en République démocratique du Congo.
Réaction, monsieur l'ambassadeur.
Bon, je ne sais pas. Comment réagir face à un homme qui ne croit pas en la capacité d'un autre de changer? Quelqu'un qui ne croit pas en la présomption de bonne foi de son interlocuteur.
Et donc la RDC a été
La République démocratique du Congo devait donner la preuve de sa bonne foi. La preuve qu'elle ne stigmatisait pas le M23 du fait de sa faute. Et voilà qu'aujourd'hui, il s'est avéré que le M23 n'est pas de bonne foi. Le M23 n'a que faire des intérêts structurants de la République démocratique du Congo. Le M23 adopte une position opportuniste qui ne reflète pas et qui ne couvre même pas les intérêts bien compris de la République et surtout du peuple et des populations au nom desquelles il prétendait au départ se battre. Aujourd'hui, les rideaux sont tombés. Le M23, c'est un syndicat. Je ne voudrais pas dire une association de malfaiteurs, mais c'est un syndicat de personnalités qui ne pensent qu'à leurs intérêts et aux bénéfices qu'elles pourraient tirer de leur position ou de l'instrumentalisation de leur prétendue revendication.
La réaction de François Mwamba ne montre-t-elle pas que la RDC se sent ridiculisée? N'a-t-elle pas été naïve, finalement?
Non, on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Vous savez que dans la vie, il faut toujours compter sur la bonne foi de l'autre. Il faut toujours faire
donner à l'autre la présomption de bonne foi.
Et ça tend à la naïveté un peu.
Non, ce n'est pas la naïveté. Et si c'était naïf, nous aurions signé. Vous avez appris. D'abord, il y a eu suspension. 14 jours après, on nous appelle. Il y a refus. Donc, nous sommes tout à fait avisés des intentions réelles de M23 et vraisemblablement du facilitateur.
Et donc, c'était prévisible?
Non, c'était pas prévisible. C'est un pari que nous tous nous avions fait. C'est
et qu'on semble
de mettre
avoir perdu,
entre
là.
Parenthèses nos intérêts égoïstes et partisans pour la paix durable dans la sous-région, qui est une condition sine qua non d'un développement intégré de la sous-région. Nous sommes unis par toute une série d'accords. La CIRGL, ce n'est pas seulement un accord politique, c'est aussi un accord économique. La CPGL, c'est pas seulement un accord politique, c'est aussi un accord politique.
Et donc, malgré cette déclaration de François Mamba, vous restez confiant?
Mais je suis confiant surtout en la capacité, en la perspicacité de la délégation congolaise.
Professeur Mathieu Kalélé, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Kinshasa. Vous êtes président du parti politique Front pour un nouveau type de Congolais FNTC, parti politique de l'opposition. Professeur, comment vous analysez la déclaration de François Mamba?
Bon, nous sommes embêtés par trois choses. C'est les contradictions dans le comportement, les déclarations de la partie congolaise. Deuxièmement, je crois qu'on savait très bien qu'entre M. Museveni et M. Kagame, il n'y a pas de différence. Ils défendent la même politique. Tous deux sont parrains du M23. Il y a aussi que les discussions de Kampala font suite à l'accord du 23 mars 2009. J'entre dans les détails. La partie congolaise, revenant de New York, nous avait dit que le M23, déclaré force négative et même terroriste par le Conseil de sécurité, avait simplement à se dissoudre. On n'avait plus à discuter avec lui. Mais deux jours après, on retrouve les Congolais à Kampala en train de discuter avec le M23. Premier accord. Deuxième accord. Monsieur Mwamba n'ignore pas que Museveni, comme nous l'avons dit, et Kagame poursuivent un même but. La recolonisation du Congo, qu'ils sont tous deux parrains du M23. Comment il peut être étonné aujourd'hui que Museveni, qu'on a récusé comme médiateur parce qu'il était juge et parti, leur fasse de telles propositions? L'accord du 23 mars 2009, que la partie congolaise a signé, et il porte la signature de Monsieur Tshibanda. Et cet accord hypothèque la souveraineté du Congo, impose pratiquement la co-gestion du Congo entre le Congo et le Rwanda. Lors de la signature de cet accord, le type qui représentait l'ONU, l'ancien président Obasanjo, s'était étonné en demandant aux Congolais, vraiment vous acceptez de signer pareil accord? Les Congolais avaient dit oui, à la grande stupéfaction de tous ceux qui étaient là. Dans cet accord-là, il est accepté que le CNDP entre dans la vie politique congolaise. J'ai devenu parti politique et du côté de la majorité. Dans cet accord-là, il est dit également que les deux partis exploite ensemble ou surveille ensemble l'exploitation des ressources minières. Dans cet accord, article 8 et article 6, il est prévu d'assurer la sécurité du Congo par une police mixte de proximité, une police mixte congolo-rwandaise. Donc ils n'ont jamais résilié cet accord-là et ils poursuivent. Enfin, faut noter que dans les déclarations antérieures, la délégation congolaise acceptait et reconnaissait avoir appliqué plus de 90% des exigences de l'accord du 23 mars, qu'il restait quelques 10%, qu'il était prêt à appliquer, et c'était un problème de structure, de technicité, etc. Ils ont accepté, et professeur, aujourd'hui, on leur rappelle leurs engagements, et ces engagements ont même été qualifiés de légitimes. Donc, la faute
professeur
est du côté congolais, au début.
Professeur, quand François Mwamba dit, je cite, « Vous savez bien que même si on doit négocier pendant 10 ans, personne ne nous fera signer des choses de cette nature-là. Je conclus simplement en disant, personne ne peut plus nous distraire, qu'il s'appelle président Museveni ou autre chose, personne, le ton est assez ferme. N'a-t-il pas raison de tirer la sonnette d'alarme ?»
Oui, je dis que la déclaration, le refus est patriotique. Mais jusqu'où ils vont tenir? Parce qu'ils sont habitués à trop de volte-face. Généralement aussi, quand ils acceptent, quand ils refusent, c'est en public. Quand ils acceptent, c'est en coulisses. Hein? C'est ça nos craintes. Est-ce qu'ils sont sincères et jusqu'où ils vont tenir? Parce que généralement aussi, nous avons vu que chaque fois que la partie rwandaise voulait imposer ses points de vue, il procédait par une pression militaire. Et or, nous apprenons que on amasse des troupes à la frontière rwando-congolaise. Est-ce que ce n'est pas en fonction de ces pressions-là pour obliger les Congolais à accepter cette signature? S'ils tiennent, tant mieux.
Merci.
Mais nous restons sceptiques parce qu'il y a trop de volte-face.
Merci, professeur Kalele. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique. Quelle lecture vous faites de cette déclaration de François Mwamba? Vous avez suivi l'ambassadeur à Tondou et le professeur Mathieu Kalele.
Bien, merci beaucoup pour la question, monsieur Alain. À lire la déclaration de monsieur François Mwamba, il met à nu ce que nous avions toujours, de tout temps, décrié. C'est que Kampala, à partir de ces déclarations de François Mwamba, démontre clairement que Kampala, c'est un deuxième acte et qu'il y a une main invisible, il y a des personnes invisibles qui négocient en premier acte et que la partie visible de cet acte, c'est ça Kampala. François Mwamba ne comprend pas d'où proviennent, n'est-ce pas, le cahier de charge ou les 10 points que la facilitation lui a présenté. Donc ça montre clairement qu'au-delà de François Mwamba, qu'au-delà de la délégation, qu'au-delà de Kampala, il y a des personnes invisibles qui négocient en lieu et place de la République démocratique du Congo. Et que Kampala a pour mission, tout simplement, de donner une visibilité à ce qui est décidé. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est le prolongement même des concertations. Et même la finalité des concertations est un acte du même dossier, n'est-ce pas, de la même pièce qui se joue à Kampala. Là, je m'engage et je sais donner des explications là-dessus.
Allez-y, parce que vous en avez les explications.
Tout à fait. Je voudrais dire ceci, que le problème de l'Est n'a pas commencé avec les négociations de Kampala. Mais et ce problème a commencé avec la validation de 7 députés qui ont été rejetés à la fois par la CENI et par la Cour suprême de justice. Et c'est subitement, et c'est avec beaucoup de peine d'ailleurs, que les députés et de la majorité de l'opposition ont accepté la validation de ces mandats. Et aujourd'hui, nous savons au moins faire une relation subtile entre cette validation et la prolongation, n'est-ce pas, de ces négociations. Ainsi, Kampala, c'est le deuxième acte. Et nous sommes très sûrs aujourd'hui que François Mwamba est dépassé par les solutions qu'on semble imposer à la RDC aujourd'hui. Parce que ce sont les solutions qui n'ont pas négocié. Voyez-vous, ce sont ceux qui n'ont pas négocié. Donc, il y a une main invisible qui a déjà pris une décision et qu'on voudrait faire accepté à la délégation et congolaise, à la délégation congolaise particulièrement, parce que c'est elle qui risque de perdre un peu du terrain dans cette histoire, c'est-à-dire la souveraineté, l'intégrité territoriale.
Et donc, elle fait bien de résister.
Absolument. Je crois que le professeur l'a dit. Et ça, c'est mon intention. Je voudrais voir jusqu'où. Est-ce que ça ne sera pas un simple changement de la phraséologie qui va nous pousser à accepter ou à signer? Est-ce qu'on ne va pas nous mettre dans certaines conditions, une certaine pression extérieure pour nous pousser à signer? Donc, nous voulons, effectivement, comme le professeur Kalé l'a dit, voir jusqu'où, n'est-ce pas, on va tenir. Et c'est ce qui est essentiel, n'est-ce pas, à ce niveau de négociation. Parce que on a commencé. Je savais que la chute allait être de plus en plus difficile et aujourd'hui il est clair qu'on voudrait nous pousser à une solution à la malienne où vous avez, des rebelles qui sont protégés par la communauté internationale, qui ont un espace et qui semblent, n'est-ce pas, échapper pratiquement à l'autorité centrale du pays. Et je crois que la RDC n'est pas prête à accepter ce genre de solution.
La RDC Joseph Kongolo a-t-elle été naïve ou taclée par la communauté internationale?
L'absence de l'État, la faillite de l'État a poussé la communauté internationale à jouer son jeu pour, d'après elle, sauver la République. Mais en réalité, on ne sauve pas la République. Donc la faillite de l'État nous a poussé à pousser, n'est-ce pas, les personnalités de toutes sortes de venir jouer le rôle que nous avons abandonné dans la rue. Et cette faillite a été acceptée avec les accords, la résolution et les accords d'Addis Abeba. Il a été clairement accepté que l'État était en faillite et qu'il fallait absolument le renouveler. Et aujourd'hui, la communauté internationale a pris notre rôle, a pris la place de la communauté de la République démocratique du Congo. Et je crains fort que ce soit la main invisible qui négocie à notre place aujourd'hui et qui veut nous imposer toutes ces décisions.
À la liste de 78 commandants non amnistiables, voilà, j'y arrive, qui est déjà réduite à 40 ou à moins encore, on le saura dans les prochains jours. Il y a une nouvelle liste de personnalités politiques également non éligibles, non amnistiables, qui circuleraient déjà, Joseph Kongolo. Comment vous analyser ces aspects?
Bon, si je continue dans ma logique, ça ce sont mes analyses personnelles, je constate effectivement que le gouvernement a raison d'allonger la liste des commandants non éligibles. D'abord parce que la configuration actuelle de l'armée aujourd'hui, elle n'est pas prête à recevoir encore des généraux autoproclamés dans ses rangs alors qu'il y a déjà un déséquilibre notoire. Ça, c'est aussi un malaise qui grandit dans les rangs des troupes. Ça, c'est la première. La deuxième chose, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que la République démocratique du Congo ne peut pas encore accepter d'allonger et de multiplier le nombre, n'est-ce pas, des gens qui agressent la République dans les rangs aussi de la sphère politique. Et je crois que à cela, on doit normalement, tout celui qui prend les armes contre sa nation n'a pas droit d'exercer une responsabilité publique. C'est-à-dire que on doit allonger la liste. En principe, on doit allonger la liste pour que ces gens ne viennent pas dans les rangs des institutions et de l'armée.
Monsieur l'ambassadeur, vous avez suivi, vous venez de suivre Joseph Kongolo. Le professeur Kalele a notamment mis l'accent sur les contradictions dans les déclarations de la partie congolaise.
Je ne vois pas en quoi. Je voudrais rappeler que le président de la République a dit et redit, et c'est la base de toutes nos actions, que la question congolaise de l'Est a trois volets. Il y a le volet militaire, où nous sommes présents. Il y a le volet diplomatique, où nous sommes présents. Et il y a le volet politique où nous sommes également présents. Donc il faudrait la synergie des actions sur ces trois volets pour obtenir une paix durable pour le pays et pour la sous-région. Donc je ne vois pas de contradiction. Au contraire, il y a une synergie d'action, une complémentarité. Quant à dire que la délégation est naïve, la délégation est surprise, la délégation est dépassée, mais quelqu'un qui est dépassé, c'est celui qui signe sans rien comprendre. Or, l'attitude de Monsieur Mwamba, François Mwamba, démontre, ou en tout cas montre, que la délégation congolaise connaît un peu plus
Nadon Lair.
Le professeur Kalele a salué cette réaction, mais il se demande plutôt jusqu'où le gouvernement pourrait-il, jusqu'où peut-il tenir.
Moi, j'aurais bien voulu qu'il se demandât, mais comment faire pour encourager le gouvernement à y aller? Le gouvernement fait son travail, la délégation fait son travail. Est-ce que lui, il fait sa part de travail de patriote en soutenant le gouvernement sans réserve? Et c'est toujours la même question depuis Kennedy. Eh bien, il faut plus se demander qu'est-ce que le pays fait pour moi? Qu'est-ce que moi je fais pour le pays? Parce que la délégation congolaise, pour que son action soit efficiente, il faudrait bénéficier de l'adhésion de l'ensemble de la nation congolaise, d'où le sens des concertations nationales. Et si lui se met en marge des concertations nationales, il préfère regarder en spectateur intéressé par la défaite ce qui se passe à Kampala, eh bien sa réaction ne m'étonne pas. Mais ce n'est pas un doute constructif. J'aurais voulu de sa part un doute plus constructif.
Monsieur l'ambassadeur, il y a Albert Ndjadi de Goma Nord Kivu qui dit « Les pourparlers de Kampala prennent du temps à cause de la complaisance, voire de la complicité du pouvoir de Kinshasa. Il y a des agendas cachés. » Qu'est-ce que vous lui répondez?
Des affirmations gratuites qui ne reposent pas sur des éléments pertinents. Les négociations pour la paix, je vous l'ai dit, ce sont des activités complexes et connexes. Lorsque vous êtes à Kampala, vous devez aller à New York, vous devez ménager la sous-région, vous devez tenir compte de l'opinion nationale, vous devez tenir compte de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre. Voilà pourquoi ça traite. De toutes les façons, il n'y a aucune négociation de paix, pour une paix durable, qui n'a pris l'espace d'un matin.
Alors, monsieur l'ambassadeur, il y a lieu de se demander aujourd'hui... On est dans l'impasse, on est bloqué là, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire avancer finalement ces pourparlers?
Non, on n'est pas dans l'impasse. Tout simplement, la République a crié holà. Il y a ici des intérêts qu'il ne faut pas transiger. Il y a ici des lignes à ne pas franchir. Eh bien, si vous ne changez pas, nous nous arrêtons là. C'est tout simple, parce que...
Alors, nous nous arrêtons là. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites nous arrêtons là?
Il serait naïf de croire que le président ougandais et le président rwandais défendraient nos positions et nos intérêts plus que nous-mêmes. Commençons d'abord par faire confiance absolument au président Kabila, qui défend nos intérêts à plus d'un titre, plutôt que chaque fois... qu'il pose un acte positif ou comme la délégation vient de le faire, on dit bah, on ne sait jamais pour combien de temps.
Professeur Mathieu Kalele, nous abordons directement la deuxième partie de cette émission. Que faut-il pour faire avancer les pourparlers de Kampala? Nous allons prendre pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Maxime Kemani, depuis Kisangani, dans la province orientale. Le gouvernement refuse aujourd'hui d'intégrer les rebelles du M23, ce qui est une bonne chose pour la RDC. Mais nous avons vu à l'époque le prix à payer pour mettre fin à la guerre que nous avons connue, où il y avait beaucoup de rebelles, RCD, MLC et consorts. Le gouvernement a accepté d'intégrer ces gens-là. La transformation, en fait, de ces groupes rebelles en des partis politiques, ça a donné quand même quelque chose. Il y a eu la réunification. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas faire la même chose. Intégrer ces gens-là pour mettre fin à la guerre, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a la violation des femmes à l'Est, il y a des pillages, il y a la mort de milliers de personnes qui continuent à survivre. Est-ce que c'est utile vraiment de continuer à refuser pendant qu'on continue à tuer de l'autre côté? Est-ce qu'il ne faut pas faire comme on a fait à l'époque? Est-ce que les rebelles d'aujourd'hui sont-ils plus mauvais que ceux d'hier qu'on a accepté d'intégrer dans le gouvernement?
Réaction, professeur Kalele.
Bien, c'est un peu dommage qu'il y ait des Congolais qui raisonnent de cette manière. On sait que la stratégie de l'infiltration, c'est le dada de M. Kagame depuis qu'il était au maquis à Nouganda. Il infiltre les Rwandais dans nos institutions, dans l'armée, dans le gouvernement, au parlement, dans les entreprises publiques. Est-ce qu'il faut maintenant accepter de co-gérer le Congo avec le Rwanda ou avec un autre pays tiers? À la question tout à l'heure que vous posiez, est-ce que le gouvernement congolais a été n'a pas été naïf. Nous disons que le gouvernement congolais a été plus que ça, il a été complice, parce que il sait très bien que dans cette histoire, quel est le jeu qui est en train d'être joué. On a vu ici l'armée rwandaise entrer officiellement au Congo pour soi-disant chasser les FDLR. L'armée ougandaise, la même chose, officiellement. Les gens ont décrié, il y en a même qui ont perdu leur poste. Nous pensons, nous, que, comme on le dit maintenant au Nord Kivu, il n'est plus question de diplomatie, de question de solution politique qui consiste à intégrer les Rwandais dans nos institutions. Les gens savent et le font. Il faut faire la guerre, résoudre la guerre par la guerre. Or, au niveau de ceux qui dirigent, il y a une politique d'affaiblissement de l'armée, de découragement de l'armée. Quand elle avance, on lui donne l'ordre de reculer, etc. Mais vous prenez Museveni, vous prenez Kagame. Ils vous disent très bien que leur modèle, c'est Hitler et Bismarck, qu'ils veulent faire un empire Imatoussi. Et c'est la guerre. Devant les gens qui ne croient que la guerre, qui ne pratiquent que la guerre, vous venez avec de la diplomatie, avec la politique et tout. Regardez, je voudrais terminer d'ailleurs par là. Regardez, les Rwandais entrent ici, venant de Tanzanie, de manière irrégulière, s'installent au Congo. Le gouvernement réagit comment? Ah, nous allons demander des explications à nos amis rwandais. C'est une complicité. Les Bororo sont là. Est-ce qu'on les a déjà chassés? Nous avons une grande partie du territoire, presque de même dimension que le Rwanda, de Rutshuru à Bunagana, etc. Les gens s'installent, ils administrent ces territoires, ils perçoivent les taxes et ils font des exactions, ils tuent, ils violent. Ça fait des années qu'ils sont là-bas et le gouvernement est quoi?
Professeur, il y a Jean de Dieu Mungwana de Goma en Nord Kivu qui dit que les facilitateurs et que les négociateurs plutôt ne prennent pas Kampala comme la conférence de Berlin. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas délocaliser les assises de Kampala dans un autre pays de la CIRGL, car les propos du facilitateur ne sont pas dans l'intérêt du peuple et de sa souveraineté? Brève réaction, professeur. Et serait-ce une solution à cette crise?
Non, le problème n'est pas fondamentalement le lieu. Le problème, c'est les acteurs. Museveni, comme nous l'avons dit, c'est Kagame. C'est l'autre nom de Kagame. Et les deux sont dans le même jeu. Ici, c'est un problème de rapport de force. Est-ce que le gouvernement congolais est sincère? Quels efforts déploie-t-il pour renforcer son armée et répondre à la guerre par la guerre? C'est ça le fond du problème.
Hein? Voilà.
Museveni et Kagame, ils vont toujours imposer leur volonté aussi longtemps que nous serons faibles et nous allons pleurnicher comme on l'entend. Pourquoi aujourd'hui c'est Mohamed qui va? Parce que celui qui a signé le premier accord qui nous a mis dans le pétrin ici, c'est M. Tshibanda. Et on sait que quand la délégation congolaise est partie en Ouganda il y a quelques mois, M. Tshibanda n'a pas assisté au pourparler officiellement.
Merci, professeur Joseph Kongolo. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient d'Isiro en province orientale.
Maître Jean-Pierre Goumenoté à Isiro, province orientale. À Kampala, nous sommes face à un dialogue de sourds qui ne donnera aucune solution aux vrais problèmes congolais. D'autant plus que cela se tient dans l'un des pays qui agresse la RD Congo. Pour qu'un tel dialogue puisse donner un bon résultat, il faut changer le pays ainsi que le facilitateur.
Réaction Joseph Kongolo. Pour le professeur Kalele disait que ce n'est pas un problème de lieu, mais plutôt d'acteur.
C'est une opinion, mais celle-ci aussi est une autre opinion. Parce qu'au fait, quand on a changé la direction de la CIRGEL, je crois qu'en ce moment-là, d'ailleurs, les gens ont réfléchi dans ce sens-là, qu'on allait aussi changer la direction de, des négociations, donc de l'Ouganda vers le Congo-Brazzaville et du président Museveni vers le président Sassou. Malheureusement, on a maintenu le même rythme et aujourd'hui, on crie. Non, moi, je voudrais pas être aussi naïf dans ce sens-là. Je crois que dans la marche des négociations, la population de tout temps, a toujours été plus éclairée, plus intelligente que les individus. Et on l'a toujours dit chaque jour, matin et soir, sur les médias, dans les journaux et tout ça. Je crois que on avait fait déjà un faux départ, comme Monsieur Alain vient de le dire tout à l'heure, qu'on a pensé sur la bonne foi, n'est-ce pas, des interlocuteurs, de ceux qui sont en face de nous. Malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Je crois plutôt que il y a lieu toujours de prendre d'autres orientations. François Mamba a donné peut-être le ton. Quand il prend le ton ferme pour dire qu'on ne peut pas nous faire signer n'importe quoi, je crois qu'on peut s'appuyer sur ces déclarations et affûter des stratégies, n'est-ce pas ? Affûter des stratégies, ça veut dire mobiliser suffisamment la population autour, n'est-ce pas, de cette position et affûter des stratégies qu'il faut pour pouvoir maintenir le rythme. Je crois qu'on peut profiter de cette déclaration et changer la balance, changer le curseur.
Dany Kalembo de Bukavu Sud qui vous dit, dans certaines circonstances comme celle de la RDC, l'option militaire est la solution. Nous ne pensons pas que le gouvernement de la RDC restera, campera longtemps sur sa position du fait qu'il est habitué à se contredire à tout moment. Aujourd'hui, il parle maintenant de négociations alors que jadis, il parlait d'entendre le M23 sans négociation. Il est donc temps d'envisager d'autres mécanismes visant à rétablir la paix en RDC, mais avec Kampala, nous sommes pessimistes. Quels pourraient être ces mécanismes, Joseph Kongolo?
Oui, d'abord, Kampala travaille sur, pour nous Congolais, sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et M. François Mamba l'a dit, l'a déclaré qu'il ne peut pas céder un seul morceau de territoire congolais, n'est-ce pas, à qui que ce soit, quelle que soit la personne, n'est-ce pas, qui le réclame. Donc, ça montre assez clairement, n'est-ce pas, que nous avons une grosse part. La République démocratique du Congo a une grosse part, celle qui doit...
La responsabilité.
Une grande responsabilité. Donc, à un certain moment, nous devons faire abstraction de la communauté internationale, prendre notre responsabilité en main et agir en conséquence comme des gens qui défendent leur territoire, des gens qui défendent leur gouvernement.
Faire la guerre.
En fait, si cela doit passer par la guerre, on fait la guerre. Si cela peut passer par d'autres moyens, n'est-ce pas ? Tant mieux. Mais nous sommes en politique, là où, à un certain moment, la fin justifie les moyens. Donc, si c'est par la guerre, autant y aller. Donc, parce qu'aujourd'hui, si on doit suivre toutes les voies, tous les conseils qui nous viennent d'ailleurs, de l'extérieur, on veut nous laisser traîner sur le dialogue à Kampala. La communauté internationale a insisté, c'est Kampala qui est important, c'est Kampala qui va résoudre le problème. Or, pour nous, Kampala est en train, n'est-ce pas, de glisser, n'est-ce pas, vers la perte de notre territoire. Donc, ce n'est pas pour nous une solution. Donc, nous devons prendre nos responsabilités à main et chercher la voie qui soit plus efficace pour nous remettre dans nos droits.
Monsieur l'ambassadeur, à Tundu, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. J'aimerais des réponses assez brèves. Joseph Kongolo pense que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Le professeur Kalele est dans le même sens. Mais qu'est-ce que vous pensez par rapport au Conseil de sécurité qui était ici en RDC ce week-end et qui a dit, je cite, que la crise en RDC n'a pas de solution militaire et ne sera surmontée que par voie politique.
Je me permets de le corriger. À partir du moment où cette crise, si on peut ainsi qualifier cette situation, a trois volets. Un seul volet ne peut pas résoudre la crise. Il faut impliquer les trois.
Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, monsieur l'ambassadeur?
Ce qu'il faut faire, d'abord, il faut prendre nos responsabilités, comme l'a dit monsieur
Kongolo. C'est-à-dire faire la guerre.
En assurant la montée en puissance de notre armée, pour la transformer en une puissance de dissuasion. Grâce aux victoires que nous amenons, que nous engrageons sur le terrain, aujourd'hui, ils ne se permettent plus de venir comme dans un poulailler. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, il faut assurer la cohésion nationale, comme les concertations national vienne de donner la preuve. Il faudrait éviter de faire des critiques de faiblesse, des critiques malveillantes et inutiles. Aujourd'hui, M. Kongolo l'a dit, nous devons tous nous regrouper autour de notre gouvernement, autour de notre chef d'État, autour de notre délégation, afin que nous puissions parler d'un même langage, afin que chacun puisse contribuer à sa façon à la victoire diplomatique du Congo. Troisièmement, nous devons avoir une diplomatie proactive. C'est grâce à cette diplomatie que nous avons aujourd'hui des résolutions qui font des pressions. Ne donnons pas l'impression que le Rwanda, l'Ouganda ne sont pas sensibles aux pressions diplomatiques.
Et en ce moment où Kampala semble bloqué sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Je suis en train de vous dire, il ne faut pas renoncer à défendre notre patrie sur le plan militaire. Il ne faut pas renoncer à organiser la cohésion nationale sur le plan politique. Il ne faut pas renoncer à entreprendre des activités diplomatiques sur le plan international. Parce que la guerre que nous menons aujourd'hui n'est pas un balai de bienfaisance.
Et entre-temps, ne faudrait-il pas finalement claquer la porte de Kampala comme le propose Pierre Shindano de Bukavu ?
Je pense qu'il faudrait d'abord sérieusement penser à la délocalisation de Kampala et ensuite au changement du facilitateur. Parce que la question de bonne foi se pose.
En guise de conclusion, monsieur l'ambassadeur, faut-il espérer finalement par rapport à Kampala ?
Je pense qu'il faut espérer par rapport à notre stratégie globale. Stratégie globale est de mettre en mouvement et la communauté internationale et la sous-région. Merci. Et la population congolaise pour contrer cette mare, n'est-ce pas, qui nous vient de l'extérieur.
Merci, monsieur l'ambassadeur Atondo. Professeur Mathieu Kalele, vous soutenez l'option militaire, mais face à la déclaration du Conseil de sécurité qui pense que l'option politique reste la voie par excellence, la RDC ne se trouverait-elle pas entre le marteau et l'enclume?
Non, je crois que ce n'est pas le Conseil de sécurité qui nous impose une ligne de conduite. Le Rwanda ne lui obéit pas. Israël ne lui obéit pas. Qu'est-ce qu'il a déjà fait contre ces deux pays-là? Il faut savoir défendre ses intérêts. Nous avons vu au Nord Kivu, le FARDC avec la population sous la direction de la société civile ont démystifié l'armée rwandaise. C'est à ce moment-là que le Conseil de sécurité par Mary Robinson est venu arrêter l'avancée. C'est pour protéger les M23, c'est pour protéger le Rwanda. Il est aussi quand même assez curieux que le Conseil de sécurité dise « ça c'est un groupe terroriste, c'est un groupe négatif, on doit le dissoudre ». Envoyer une brigade d'intervention, la brigade est là, assise, le territoire congolais continue à être occupé. Enfin,
professeur,
c'est quand même aussi assez curieux que tout le monde sait que le M23 à Kampala est supporté par le gouvernement congolais.
Professeur,
c'est le gouvernement congolais qui paye le logement, la nourriture et le per diem.
Professeur, en guise de conclusion, parce que l'émission touche déjà à sa fin, faut-il espérer par rapport à Kampala pour vous? Brièvement, je vous en prie.
Dans ces conditions, non. Je dis qu'il faut mettre fin à la guerre par la guerre.
Monsieur Joseph Kongolo, en conclusion, il faut mettre fin à la guerre par la guerre. La position du Conseil de sécurité, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois plutôt que c'est un cas qu'il faut bien gérer, Kampala. Si on le gère mal, eh ben, il va casser même les minces efforts des concertations qui ont été élaborées, qui ont été faits tout à l'heure là. Donc, je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités et chercher l'adhésion des masses de manière à avoir une force pour aller dans la direction qu'il faut pour sauvegarder les intérêts de la République.
En d'autres termes, la RDC est en position très difficile.
Très difficile, c'est vraiment délicat et nous ne savons pas combien les acteurs ont la force pour pouvoir décanter cette situation et surtout l'orienter dans le sens de la volonté des masses.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.